Vous savez qu'au moment de la découverte, il y avait deux endroits à peu près où il y avait deux grandes cultures, et c'est là que se concentraient les populations et où on pouvait trouver des villes, c'est-à-dire le Anahuac, le plateau mexicain, et le plateau andin, la région de Cusco. Donc de grandes villes dans toute l'Amérique. Quand on regarde, par exemple, la collection de voyages de Ramuzio, qui est une collection du XVIe siècle, il y a trois plans de villes sur le Nouveau Monde. Il y a Mexico, Cusco et Hochelaga. Hochelaga, qui était pourtant une toute petite ville, qui est, si vous voulez, au Québec actuellement. Hein, voilà. Donc, un énorme territoire où il n'y avait pas de port. Par exemple, imaginez que tout le continent américain n'avait pas un commerce comme nous avons l'habitude dans nos cultures méditerranéennes de voir qu'il y a des échanges, des ports, des communications, des échanges commerciaux. Un empire comme celui des Aztèques, était à l'intérieur des terres. Il y a un port dans l'empire Inca qui était Tumbes, c'est tout. Hein, tout le reste, donc, où aller, si vous voulez, une fois que vous êtes, à part faire du cabotage, où aller quand vous êtes l'équivalent de Callao maintenant, devant vous, il n'y a que le Pacifique. Et même à l'intérieur du golfe du Mexique, il n'y avait pas de ville. D'où fondation immédiate. Alors, avant de parler du Mexique, c'est le tout premier voyage qui nous intéresse, celui de Christophe Colomb. Christophe Colomb qui, je ne vais pas revenir sur son aventure, mais qui arrivant pour enfin sur une terre qu'il avait prévue ou pas prévue, ça c'est une autre question, il rencontre donc des habitants d'une île paradisiaque. Il ne se pose pas la question, et il ne pose pas la question de savoir comment s'appelait cette île. Ça, c'est caractéristique de toute la colonisation européenne du XVIe, XVIIe siècle. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de savoir ou de poser une question, de savoir rien, ni le nom d'un fleuve, ni le nom d'une montagne. On va tout de suite donner un nom. C'est-à-dire le baptême de la vie, du site est fondamental. Alors le baptême, il va être, comme son nom l'indique, puisqu'il est religieux, sera immédiatement, puisque les voyages se faisaient au nom de la religion, au nom du Christ, on va être aussitôt un nom, San Salvador, bien sûr, San Salvador. Alors ça sera ou bien de l'imaginaire du découvreur, ou bien de la date, souvent, de la découverte. Vous avez par exemple le cap des 11 000 vierges. Qui se trouve au Cap Horn, près du Cap Horn. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas 11 000 vierges là. C'est que c'était le jour où on célébrait ces martyrs des 11 000 vierges, donc on l'a appelé comme ça, le Cap des 11 000 vierges. De la même façon, San Salvador, on ne sait plus très bien de quelle île il s'agit. Vous savez que il s'agit probablement de Guanahani, mais qui, d'après certains, étant donné que les méridiens n'étaient pas les mêmes, pourrait être une autre île. Voilà. Hein, donc, c'est toujours... Donc, San Salvador. Alors, ce San Salvador, maintenant, s'appelle probablement Watling. W-A-T-L-I-N-G. Hein, si vous voulez y aller en pèlerinage, pourquoi pas. Ou en barque, plutôt, parce que c'est pas très facile d'accès dans les Lucayes. Quand Christophe Colomb revient de son premier voyage, il n'est pas resté dans cette île de Guanahani. Il est descendu, il a fait un chapelet d'îles, et chaque fois, il a baptisé, il a fondé sur le plan, religieux et colonial, car ça allait de pair. Alors, les premiers documents que nous ayons sur ce voyage ont été édités dès son retour et probablement, imprimés à Bâle, on n'en sait rien exactement. Il y a une lettre en espagnol, la lettre à Santángel, à Luis de Santángel, où il explique comment il a fait ce voyage et comment il a découvert des îles. Il n'en dit pas davantage. Dans la mer des Indes. Il y a une édition latine. Et cette édition latine a l'intérêt de comporter des gravures. Alors, il y en a quatre. La première, qui a donc été éditée en Europe, après le retour de Christophe Colomb, volontairement pour marquer la découverte et pour que le pape, qui était un Espagnol, Alexandre Borgia, Alexandre VI, Borgia, malgré ce nom, c'est Borja, en réalité, qui était un Aragonais, et qui donc va favoriser, les Espagnols dans le partage du monde, le fameux partage de Tordesillas, bon, qui va donner à l'Espagne une grande place. Donc cette lettre est presque une commande, probablement. Alors, ces gravures, en général, personne ne les avait analysées, jamais. Elles ont été faites en Europe, soit à Bâle, soit à Barcelone. Il paraît qu'il y a deux éditions, peu importe. Et le graveur est absolument inconnu, anonyme. Nous allons voir que ça aussi, ça compte. C'est-à-dire que l'intérêt de la gravure n'apparaît pas immédiatement. Or, c'est quelque chose qui va rester dans l'esprit du lecteur. Et vous avez cette première vue où vous voyez une caravelle qui, bon, est approximative, hein, avec un personnage. Donc, c'est la première image que vous pouvez avoir de Christophe Colomb, en fait. Ben oui, puisqu'il est censé être... Mais pensez que cette caravelle et cette image ont été prises ailleurs. C'est-à-dire que le graveur ne s'est pas du tout intéressé particulièrement à cette caravelle de la Santa... Enfin, de la Niña ou de la Pinta, puisque la Santa Maria avait disparu, hein, au retour. Donc, c'est n'importe quoi, en fait, si on peut dire. Et le reste aussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un puzzle d'îles, alors qu'elles ne sont pas du tout disposées comme cela, elles vont être n'importe comment, et on va mettre des noms. Voilà, ce qui est important, c'est donc la désignation, l'appropriation par le texte, par l'histoire gardera ces noms. Absolument pas, puisqu'elles vont changer. Mais enfin, peu importe. Et alors, vous voyez le nom de ces îles, vous voyez Isabela, Hispania, alors Hispania, c'est... Haïti-Saint-Domingue, hein, c'est-à-dire, c'est la grande île, c'est la isla Española. Mais on ne trouve nulle part Hispaniola, alors qu'on vous l'indique souvent. Je n'ai, moi, pour ma part, jamais vu dans des textes anciens Hispaniola. C'est la isla Española, ou bien, vous voyez ici, Hispania, bon, Hispania, Fernandina, Concepción, Salvador, etc. Bon, tout est un peu mélangé, alors que c'est un chapelet d'îles qui va du nord au sud. Et c'est ce qui importe. Ce qui importe ici, ce sont les noms. Il y a un voyage, symbole du voyage, la caravelle ou le bateau, enfin, comme vous voudrez, puisque la Santa Maria était une nao, c'est une nef, un bateau plus gros que les autres. Et par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on ne regarde pas ces images. Il y a un château. Si vous lisez les textes de Christophe Colomb, vous verrez, il est arrivé dans un endroit, c'était un récif corallien, pratiquement, il n'y avait rien. Hein. Et ici, on voit un château fort, carrément. C'est-à-dire que l'imaginaire européen va se dire, il a fondé une ville, il a fondé quelque chose, on va le représenter. Et on le représente d'après les critères européens, tout simplement. Sans faire du tout... D'ailleurs, il n'en parle pas, vraiment. Mais on va affirmer cette présence par une gravure qui est comme une espèce de pont-levis, enfin d'entrée avec pont-levis, mais... Ce qui est caractéristique, c'est que tout est au bord de la mer, tout est maritime. Donc ceci date de 1493. Hein. C'est donc un incunable espagnol ou latin. C'est très rare sur l'Amérique, c'est le seul. L'incunable voulant dire, vous le savez tous quand même, hein, imprimé avant 1500. Et incunable veut dire « in cuna »,« en la cuna ». C'est-à-dire les tout premiers textes imprimés. Alors, on appelle incunable ce qui a été imprimé avant 1500. Donc, pour l'Amérique, il n'y a que la lettre de Christophe Colomb. Donc, ce texte aura une diffusion importante, puisqu'il va être, il est bref, il n'y a que 8 pages, d'où l'extrême rareté de ce texte actuellement, puisque quand c'est lu, ça disparaît. Hein, ce qui n'est pas lu est bien conservé. Hein, je ne sais pas, moi, les semaines saintes, les trucs comme ça, là, c'est superbe. Ça ne bouge pas. Tandis qu'un texte que l'on passe, que l'on se prête, disparaît. Et jusqu'ensuite, alors, il sera supplanté par le Mundus Novus, le Mundo Nuevo, de Amerigo Vespucci, qui lui donnera beaucoup plus de détails et qui sera un livre qui va donner une importance beaucoup plus grande au Nouveau Monde. Alors, on continue, si vous voulez, avec ces images. Si. Dans la partie gauche, vous avez une autre vue, une autre gravure sur bois. Faites la distinction entre les gravures sur bois, les gravures sur cuivre, les lithographies. Il faut que vous appreniez ça. Hein. La gravure sur bois, ça va durer jusqu'à à peu près la première moitié du XVIe siècle. C'est-à-dire ce qu'on appelle la xylographie, très souvent, hein, xylos en grec voulant dire bois. Ici, vous voyez, insula hispana. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'indication formelle, fondamentale. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cela, de quoi s'agit-il? On n'en sait rien. Hein, donc, vous allez... j'ai pu trouver un autre incunable, qui n'est pas un incunable sur l'Amérique, qui est un incunable sur l'histoire des chevaliers de Rhodes, d'un certain Caoursin, livre rarissime, hein, inutile de vous dire, j'ai pas ça chez moi, que j'ai pris ça sur un catalogue ancien, et que je le connaissais, ce livre, et on voit la construction d'un bâtiment. Parce que, pensez à une chose, c'est que ce sont les images les plus anciennes que nous possédions sur notre culture. Hein, nous ne savons rien en images de l'époque de Jeanne d'Arc. Bon, absolument pas. Hein, ça ne commence qu'avec les xylogravures qui étaient liées à l'imprimerie, c'est-à-dire deuxième moitié du 15e et encore fin du 15e. Donc ici, c'est 1496, et vous vous rendez bien compte qu'il y avait un stéréotype de la construction. Vous retrouvez exactement les mêmes choses. Vous voyez les blocs de pierre, vous retrouvez la poulie avec le seau, vous voyez, de la même manière que vous la retrouvez en haut. Ce n'est pas spécifique à l'Amérique. C'est ce que l'on veut, c'est ce que je veux prouver. C'est-à-dire qu'on va vous mettre ça sur la lettre de Christophe Colomb, mais pour vous dire, il y a une ville qui a été fondée. Voilà. Il y a une ville qui a été fondée. Alors, Insula Hispana, donc, c'est la Isla Española, Haïti-Saint-Domingue. Alors, les fondations se passent au nord de l'île. Hein, au nord de l'île, alors que la capitale se trouve au sud, Santo Domingo, dont je vais vous parler ensuite. Insula Hispana, totalement faux, bien sûr. Il n'y a pas un caillou là-bas, il n'y a pas une pierre. Hein. Tout est construit avec du bois et des palmes, pour des quantités de raisons. Dans toutes les Caraïbes, à l'origine, il n'y avait pas de bâtiments en dur. Vous savez que c'est un problème de l'architecture des Caraïbes, d'ailleurs. Dès qu'on construit en béton, il fait une chaleur épouvantable. Les maisons sont ouvertes à tout vent, sinon ce n'est pas possible. Donc, l'habitat normal était un habitat fait de constructions légères. En plus, pensez qu'il y a des ouragans, pensez qu'il y a des tremblements de terre, etc., etc. Donc, logiquement, il n'y a absolument pas cela. Sinon, pour marquer une domination européenne, pour qui le critère, c'est le château. C'est le château. Donc, il faut marquer que c'est une ville importante en montrant un château. Donc, ici, à gauche, ça fait partie de la lettre de Colomb à Santa Angel, édition latine. À droite, un texte pratiquement contemporain sur les chevaliers de Rhodes, donc sur la Méditerranée. Donc, vous voyez qu'il y a une connexion évidente. Ici, l'image aussi qui est très rare, que personne n'avait regardée, si vous voulez, parce que les gens ne regardent pas les livres, vous le savez, c'est juste qu'ils les lisent. Donc, ici, c'est un atlas de Ptolémée. Bon, évidemment, atlas de Ptolémée, bon, les gens regardent à la rigueur une carte où la gare, ils se disent, c'est rare, bon, très bien. Et il se trouve qu'au verso d'une carte, il y avait ça. 1525, hein, c'est en 1525. Alors, c'est édité à Venise, et on attribue cette gravure à Holbein. Hans Holbein, vous le savez, qui est un très grand peintre et graveur allemand, et qui, effectivement, a fait pas mal de choses sur des cartes, des plans. Il y a une carte du monde où il y a des dessins de Holbein. Vous connaissez surtout de lui les ambassadeurs. Hein, vous connaissez ce tableau magnifique, hein, bon. Et d'ailleurs, justement, je vais vous en parler, puisque vous voyez qu'ici, Christophe Colomb, curieusement, ressemble tout à fait à un des ambassadeurs du tableau de Holbein. Voilà. Alors que Christophe Colomb, imaginez-le, il arrive, il vient de passer un mois sur un bateau, il est habillé en robe de bure, il est complètement... j'aurais bien voulu le voir, évidemment. Hein. Plutôt que d'avoir des reconstitutions approximatives des films que nous avons pu subir. Alors donc, il y a ici une vision complètement délirante d'un gros marchand vénitien, hein, qui est là pour faire ses affaires et qui reçoit des Indiens qui nagent et qui lui apportent des... Alors, vous lisez le texte, effectivement, du journal de bord. N'oubliez pas que le journal de bord était inconnu à cette époque-là. On ne connaissait que la lettre. Hein. Le journal de bord n'a été édité, et ça, c'est très curieux, qu'en 1825. Donc, attention à ça aussi, c'est important pour ne pas faire d'anachronisme du point de vue de la connaissance documentaire. Ce journal de bord était manuscrit, ces manuscrits ont toute une histoire, et le manuscrit original a disparu. Les copies, il y a eu plusieurs copies, dont une faite par Bartolomé de Las Casas, qui se trouve à l'Escorial, à la bibliothèque de l'Escorial, et ce manuscrit est resté donc caché, ce qui est bizarre quand même. Enfin, c'est bizarre et c'est explicable dans la mesure où Christophe Colomb a toujours embêté les rois d'Espagne, car il avait eu des exigences telles qu'il voulait être vice-roi des Indes sur un plan héréditaire, que, bon, moins on en parlait de ce type, mieux ça valait. Et en fait, il a été mis de côté. Il y a eu un procès, ensuite, pour essayer de savoir qui allait être hérité ou pas. Enfin, bon, petit à petit, on a éliminé l'usurpateur, d'une certaine manière. Donc, ce texte du journal de bord, qui ne pouvait que donner de la force à l'importance de sa découverte, va être occulté pendant très longtemps. Je pense que c'est la raison fondamentale. Voilà. Donc ça a été édité par Fernández de Navarrete en 1825. Voilà. Donc ici, cette image est intéressante sur bien des plans, parce que, encore une fois, rien à voir avec une réalité probable, parce qu'on ne connaît pas la réalité. Vous le savez qu'en histoire, la première des choses, c'est nous sommes sur une voie qui peut mener peut-être à une vérité qui évidemment est inaccessible. Et heureusement, sans ça notre métier ne servirait à rien, si on avait la vérité. Bien, donc, c'est donc une recherche passionnante de la vérité. Et ici, vous avez donc un ambassadeur de Holbein qui donne qui reçoit une espèce de bourse, enfin, le délire complet. Mais ce qui nous intéresse du point de vue des fondations et des villes, c'est que nous avons derrière un énorme château. Enfin, on dirait le château Saint-Ange, j'en sais rien, c'est quelque chose de... Bon, sur une espèce de falaise, vous voyez, qui surplombe. Alors, évidemment, il n'y a pas de falaise. Sinon, si vous allez à Santo Domingo, vous verrez... Bon, c'est un peu comme à La Havane, c'est le Malecón, c'est-à-dire il y a 2 mètres, peut-être, de falaise, quoi, et encore. Et ici, vous voyez, donc c'est un énorme bâtiment qui n'a jamais existé à cette époque, mais qui va symboliser Fuerte Navidad. Alors, Fuerte Navidad, c'est un fort qui a été bâti avec les débris de la nef Santa Maria. La Santa Maria a échoué sur un récif de corail la nuit de Noël. C'est pour ça que ça s'appelle Fuerte Navidad. Il a échoué et il est tombé en petits morceaux, mais on a pu récupérer, je ne vous donne pas tous les détails, ils sont trop compliqués, on a pu récupérer le bois de la caravelle pour faire un fort. Et donc, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Imaginez. Donc, voilà ce que l'on en a fait dans la représentation iconographique. Ce Fuerte Navidad, on essaie de trouver maintenant. Alors, quand on trouve un rondin un peu façonné, on dit « Ah, maintenant, vous savez que l'archéologie a pris une grande importance. » Et bon, c'est bien, mais c'est un peu décevant. Surtout que Fuerte Navidad, bon, on ne sait pas très bien où c'était, en fait. Et la première ville, on va la voir, c'est Isabel. Alors, la première ville du Nouveau Monde, c'est Isabel. Nous allons la voir par la suite. Donc, ici, vision tout à fait, bon, fantaisiste, mais pourquoi pas, c'est celle de l'époque. C'est justement là que nous justifions représentation et mentalité. Voilà, c'est-à-dire que la représentation, bien, il faut la prendre telle qu'elle est, il faut avoir ses distances et bien l'analyser. Voilà, quelque chose qui est une reprise de la première image que nous avons vue tout à l'heure, vous voyez, c'est-à-dire les îles sont mises un peu n'importe où, n'importe comment, toujours un symbole de bateau, c'est-à-dire de navigation. Ici, on lui fait tirer du canon, tant qu'à faire. Bon, et vous avez toujours une chaloupe, et alors on dirait que là, c'est très peuplé, quoi. Alors que c'est le désert complet, il n'y a personne. Si, quelques taïnos qui sont dans des huttes adaptés à leur vie, à leur milieu, à leur façon d'être. Bon, mais pas du tout, vous voyez, ces constructions qui ressemblent tout à fait ici à l'abbaye aux hommes. Enfin, alors là, ce sont les îles, donc ça, ce serait le second voyage Alors, vous savez que le second voyage, ce n'est plus du tout le même. Hein. C'est, le premier voyage, c'est un voyage où on espérait qu'il ne reviendrait pas. Enfin, moi, je pense. Ah oui, 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 je crois. Je crois que les rois de... Tout à fait. Ils se sont dit, bon, ça va, allez, on lui donne. De toute façon, ça n'a rien coûté, le premier voyage. Ça n'a rien coûté. Il y a eu deux navires, deux caravelles qui étaient confisquées par la couronne, qui appartenaient aux frères Pinson ou à Juan de la... Je me rappelle plus, à Juan de la Cosa. Bon, oui. Donc, ces caravelles ne coûtaient rien. Alors, une nef comme la Santa Maria, vous avez vu, pendant longtemps, il y avait une reconstitution dans le port de Barcelone. C'est un tout petit bateau. Enfin, c'est pas... C'est... Alors, on dit que la reine Isabelle aurait engagé ses bijoux. Ben, pas du tout. Enfin, c'est... Elle a pu dire, s'il le faut, voilà. C'est possible. Mais donc, ça ne coûtait rien. C'est un voyage... Et attendez, ce qui, moi, me paraît aussi... Ben, je ne l'écrirai pas, tout ça. Hein, me paraît quand même tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de curé à bord. Alors, quand même, un voyage fait pour la propagation de la foi, hein, pour implanter une colonie... chrétienne, ne parlons pas de catholique, hein, chrétienne, dans un nouveau monde, quel qu'il soit, que ce soit la Chine ou le Japon, puisqu'ils ne pensaient pas à trouver entre la Chine et le Japon cet obstacle, qu'est l'Amérique, et donc qu'il n'y ait pas un curé à bord. C'est la première des choses. S'il y a un mort pendant la traversée, s'il y a... Non, non, non. Et alors on vous représente aussi le premier voyage où il plante une croix. Pas du tout. Jamais, il n'a jamais dit ça, nulle part. Voyez. Alors, par contre, le second voyage, là, on a mis le paquet. Alors là, oui, là, il y a tout un tas, effectivement, d'hommes d'église, de militaires, de colons, et c'est là le grand voyage, 17 caravelles. Hein, 17 caravelles, ce qui est quand même, ce qui prouve bien que le premier voyage ne coûtait rien. Puisqu'on a pu mettre, quand on s'est dit, ah ben tiens, ça vaut la peine. Et ce qui prouve bien que le premier, on s'est dit, c'est un des voyages, il y a dû y en avoir d'autres. Où les gens partaient vers l'ouest, et puis bon, n'en venait pas. Et puis ça n'intéressait pas tellement, parce qu'on commençait à connaître l'autre route, celle par les Indes, par conséquent, bon, pour aller aux Moluques, qui n'était pas non plus une obsession totale, faut pas exagérer. Hein. Donc, ces premières îles sont représentées comme étant importantes. Alors ça, politiquement, sûrement, ça... Pourquoi ? Parce que toutes ces images, et là aussi... Je me suis rendu compte il y a assez longtemps, il n'y en a aucune qui soit espagnole. Toutes les images du Nouveau Monde, jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire, il n'y a pratiquement rien d'espagnol, sauf des martyrs. Bon, alors là, bon, oui, d'accord. Mais je veux dire, pas de représentation. De même que je disais hier là, que au musée de l'Amérique à Madrid, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que c'est très surprenant de voir à quel point les Espagnols se sont peu intéressés à leur colonie d'Amérique. Charles Quint, tout ce qu'il a pu écrire, ne cite une fois Hernán Cortés. C'est tout. Hein? Donc, ça n'intéressait pas. De toute évidence, ça ne les intéressait pas beaucoup. Et pour ce qui est des Français, ben, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Toutes les grandes actions qui ont été faites par les grands hommes français, ça a été de vendre ou de donner. Hein. Je parle de Napoléon, par exemple. Bon. Il n'était pas du tout obligé de vendre la Louisiane. Vous voyez. Donc il y a un... C'est loin, c'est pas intéressant. Ce qui obsède les Européens, c'est les empires d'Asie. Hein. C'est Alexandre, quoi. C'est Alexandre le Grand. Voilà. C'est refaire le voyage d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, Napoléon Ier, qui était encore Bonaparte, s'est arrêté à Saint-Jean-d'Acre. Il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il se faisait battre par les Anglais. Donc, mais sans ça, c'était son but. C'était son but, c'était d'aller toujours vers l'Est. Bien. Ici, une représentation ancienne aussi, de gravure sur bois. Alors, la gravure sur bois, vous le voyez, est assez fruste, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de donner beaucoup de détails. Hein ? La gravure sur bois, le minimum. Alors, vous avez ici une édition de Marco Polo. Alors, Marco Polo était très important comme texte. Et encore une fois, c'est l'Est. Hein, c'est la Chine. Il était très important. Il a été édité au XVIe siècle. Vous savez qu'il y a un exemplaire de Marco Polo annoté par Christophe Colomb, qui se trouve à Séville, que j'ai pu avoir entre mes mains, j'ai failli tourner de l'œil, évidemment, avec des annotations de Christophe Colomb, ça fait un drôle d'effet quand même. Hein. Et alors donc, ce Marco Polo, ici, c'est une édition rarissime, où vous avez la ville de Calicut, vous avez là, ici, à droite, mais à gauche. Et là aussi, il faut regarder les pages de titre. Il y a Santo Domingo. C'est-à-dire que, comme si c'était un journal, on vous dit, ah ben tenez, oui, il y a Calicut. Mais justement, là, on vient de découvrir une ville. On vient d'en fonder une autre. Tout à fait comparable, puisqu'elle est représentée plus petite, mais vous voyez un peu comment est symbolisée Santo Domingo en la Isla Isabela. Alors, la Isla Isabela, ça va changer de nom, mais enfin, bon, c'est à cause, bien sûr, d'Isabelle la catholique. Et donc, ce Santo Domingo, c'est déjà quand la capitale actuelle a été déjà fondée. Alors là, nous passons sur un autre domaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pour la... Enfin, c'est pas la première fois, mais enfin, une des premières fois, c'est un dessin sur place. Ce n'est pas la représentation mentale des Européens d'une ville qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils vont représenter en fonction d'un texte qu'ils ont plus ou moins bien lu. Non, ça va être un dessin d'architecture, un peu, si on veut. Donc là, vraiment, c'est la première fois que l'on voit un dessin d'une rivière telle qu'elle est, d'ailleurs. C'est à Saint-Domingue. Et vous voyez que sur le côté... en fait, il faut le retourner. Hein. Nous allons voir. Oui, il y a la fondation de quelques maisons, et il y a surtout un mur d'enceinte. Donc, première chose, on se protège. On se protège. Et ce mur d'enceinte, sur le bord de cette rivière, qui est actuellement, bon, a beaucoup changé, évidemment, c'est un endroit épouvantable où elle a attrapé la fièvre jaune. Très difficile. Alors, cette ville, ça s'appelait d'abord Nueva Isabel. Et puis, petit à petit, on l'a été appelé Santo Domingo. Alors, donc, ce petit... Premier plan est un plan levé à la main. Il est, je ne sais dans quel musée, bon, je vous dirai, je ne sais plus. Voilà la même ville, représentée à la fin du XVIe siècle. Vous voyez la rivière qui est là à droite. Bon, il faut l'inverser. Hein. C'est le sud au nord, le nord au sud. Donc, vous voyez qu'effectivement, il y a une partie qui est bâtie et qu'il y a une partie avec une protection citadine. Et, bon, elle est ici représentée avec beaucoup de bateaux. Pourquoi ? Parce que ça représente une tentative d'attaque de Francis Drake. Vous savez que dès que les Espagnols sont installés là-bas, bon, les Français, les Anglais ont dit, bon, il n'y a pas d'exclusivité de ce pays quand même, ça peut être intéressant. Et il y a eu donc des tentatives qui, d'ailleurs, curieusement, n'ont pratiquement jamais abouti définitivement pendant très très longtemps. Alors, pourtant, c'était des colonies très mal défendues. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la ville, donc, de Santo Domingo est assiégée par un nombre impressionnant de navires anglais. Et c'est une représentation. Alors ici, vous le voyez beaucoup plus net que les précédentes, car nous sommes avec une gravure sur cuivre. C'est-à-dire, c'est un dessin fait avec la même qualité de dessin qu'un dessin à la mine de plomb. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut avoir des détails. C'est fait sur une plaque de cuivre et avec un poinçon, on fait le détail. Et donc, c'est de Théodore de Brie, qui va être quelqu'un de très important pour la représentation américaine. Et il y a toujours, bon, des ornementations, vous voyez, ce grand crocodile, ce gros alligator, hein, puisque c'est... qui est ici au premier plan. Voilà. Ici, c'est la conquista del Perú, llamada Nueva Castilla. C'est la page de titre de la chronique de Francisco de Jerez. Francisco de Jerez, qui était un secrétaire de Pizarro, de Francisco Pizarro, et qui va être le texte le plus important, qui en plus est très court, hein, est très court sur les premiers événements de la conquête du Pérou. Et d'entre autres, le point principal, c'est la rencontre de Cajamarca. C'est-à-dire quand Pizarro donne rendez-vous à Atahualpa, et bon, là aussi, hein, il y a de quoi écrire, et va donc lui tendre un guet-apens, en fait, va le faire prisonnier et va massacrer 2000 Indiens, ou peut-être que 1000, enfin, j'en sais rien. Hein. Bon, mais enfin, beaucoup d'Indiens, dans la journée, à coup d'épée, ça fait beaucoup de monde, 1000 personnes. Hein. Bon. Donc, ça va être marqué, effectivement, cette conquête, et cet encuentro de Cajamarca, le voici. Alors, c'est le texte, c'est la partie du texte qui va être retenue par l'illustrateur. L'illustrateur, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Ah, tiens, il rencontre Atahualpa. Oui, alors là, qu'est-ce qu'il est? Alors Atahualpa est sur une litière. Il est précédé par d'autres caciques, il est entouré d'Indiens, ils viennent sans armes, les Espagnols sont cachés dans la ville de Cajamarca, et quand le père Valverde, qui est celui qui s'approche d'Atahualpa et qui va lui donner la Bible, tout ça est évidemment d'une très grande hypocrisie, mais une hypocrisie, on se demande s'ils n'étaient pas eux-mêmes victimes de leur propre système, peut-être pas. Et ce père Valverde va lui dire, voilà, si vous voulez devenir chrétien, la vérité est là-dedans. T'arrives. D'abord, pour connaissance de l'autre, hein, c'est tout à fait. Et alors, évidemment, Atahualpa, qui est le roi soleil, qui est le maître du pays, on lui donne quelque chose qu'il ne comprend pas, bien qu'il y ait un interprète, qui s'appelait Felipilio, qui, comme son nom le dit, était Umpilio, probablement, et qui va jouer un double jeu. Jouer un double jeu entre les Espagnols et les Incas. Et donc, il va lui traduire cela. Alors, Atahualpa, d'après les textes, on ne sait pas non plus à ciencia cierta de quoi il s'agit, mais enfin, aurait pris la Bible, aurait cru voir comme des fourmis sur le texte. Ça, c'est une vision européenne. Hein, c'est... Et aurait, au bout d'un moment, jeté le livre. Ah, c'est comme maintenant avec le Coran. Ah, c'est épouvantable. Il a jeté la Bible. Donc il a jeté la Bible, on est en droit d'intervenir, et d'intervenir militairement. Et à ce moment-là, c'est cette rencontre de Cajamarca où Atahualpa sera saisi par les pieds et les mains par Pizarro, qui quand même était au premier plan, ça il faut reconnaître, et donc va capturer l'Inca. Alors voilà, ça nous intéresse, pourquoi ici, toujours dans l'idée des fondations, c'est qu'il y a une représentation de Cajamarca. Et vous voyez, on dirait « un castillo de Castilla », hein, tout à fait. Il est évident que Cajamarca n'a rien à voir avec ça, n'avait rien à voir et n'a toujours rien à voir avec ça. Donc, cette représentation du Castillo européen pour montrer une ville va être une permanence. Vous voyez donc le père Valverde, les Espagnols et Atahualpa qui tient la Bible, qui va la jeter. Voilà, autre gravure représentant, c'est le Cusco toujours, oui. Alors là, c'est une édition vers 1550 à peu près. Ça n'a rien à voir non plus avec le Cusco. Et ça a d'autant moins rien à voir que cette image existe déjà pour illustrer l'histoire romaine de Tite-Live. On va trouver une édition de López de Gómara illustrée. L'éditeur prend la série de gravures de l'histoire romaine de Tite-Live et l'adapte. Il dit, au lieu d'être, je ne sais, Tullius ou bien Crassus ou n'importe qui, ça devient Almagro, ça devient Pizarro. Voilà. Donc, vous dire à quel point l'illustration et la représentation graphique avaient peu d'importance par rapport à la réalité, sinon par rapport à une valeur symbolique. Autres représentations sont des textes rarissimes, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois qu'on ne connaît qu'un seul exemplaire de cette lettre. Nous passons au début du XVIIe siècle, sur un codex très important, c'est-à-dire un manuscrit. C'est Guamampoma de Ayala. Alors, c'est un livre qu'il faut que vous connaissiez, je pense. C'est vers 1615 à peu près. C'est un ouvrage écrit par un disciple d'un jésuite, des jésuites sans doute, qui s'appelle Felipe Guamampoma de Ayala, qui fait un millier de pages et qui comporte l'iconographie la plus importante que nous ayons sur le Pérou. C'est-à-dire qu'il y a trois parties, il y a une partie sur les Incas, une partie sur la conquête et une partie sur la colonie. Et avec des commentaires qui sont en espagnol et en quechua. Tout ça a été édité plusieurs fois, 100 fois. Il y a des tas de gens qui se battent pour interpréter le livre. Enfin bon, on ne va pas faire épiloguer là-dessus. Mais c'est un livre fondamental. Et il a été trouvé, ce livre, au XXe siècle. Il était dans une bibliothèque. Alors là, si vous trouvez où était la bibliothèque, à moins que vous ne le sachiez, mais on ait trouvé ce livre à Copenhague, c'est quand même étonnant. Et cette époque-là, bien des chercheurs se sont intéressés, disons, à ce manuscrit tout à fait remarquable. Et vous avez, entre autres villes, parce qu'il y a des villes représentées, ici, c'est la Ciudad de los Reyes. La Ciudad de los Reyes, c'est Lima. Hein. C'est Lima qui a été fondée. Alors ça, aussi, c'est une ville fondée par les Espagnols. Nous avons vu que Cusco était une ville qui existait. Alors, il y en a très peu qui vont être adaptées par les Espagnols. Nous allons voir qu'il y a d'autres façons de l'adapter. Ici, celle-ci, c'est représentée, c'est une construction nouvelle, tout à fait. Il n'y avait rien à Lima. D'ailleurs, c'est un des pires endroits qu'on ait pu trouver. Hein. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un des pires endroits et c'est une des villes qui a le plus progressé. C'est une ville de 5-6 millions d'habitants. En 1940, elle faisait 400 000 habitants. Vous voyez, c'est quand même... Pensez à ça, c'est hallucinant. Et au moment de la fondation, qui est sur une rivière qui est à peu près aussi tumultueuse que le Manzanares à Madrid, c'est-à-dire... c'est à 10 km ou 15 km de la côte. Enfin, il faut vraiment être... Je sais pas. Tandis que le Cusco, c'était logique. Les Incas avaient compris que où se développait, c'était, étant donné la température ambiante, hein, étant donné qu'on n'est pas loin de l'équateur, enfin, on est sous les tropiques, il fallait aller en altitude, évidemment. Hein. Et ici, Lima, c'est un peu comme Guayaquil, ce sont des villes épouvantables. Il fait une chaleur. Bon. Eh bien, ça va se développer énormément. Donc, vous voyez, il n'y a pas de critère absolu, encore que dans les fondations. Justement, vous avez dans les leyes de Indias, vous avez des critères qui sont donnés. Où doit-on fonder une ville? Et comment doit-on la fonder? Alors, Lima, ici, vous avez le centre de la ville. Et nous allons retrouver un peu partout, c'est-à-dire on va retrouver le schéma de la ville européenne qui va être fondée de la même manière aux Amériques. C'est un schéma romain. C'est le camp romain, en fait. C'est le camp romain. Et ce camp romain va avoir un gros succès en Espagne, à Santa Fe. Santa Fe, vous savez, à côté de Grenade, qui était le camp où étaient les chrétiens, les rois catholiques, et qui assiégeait la ville de Grenade, qui était tenue par Boabdil, le dernier Abencerrage. Et donc ce schéma de Santa Fe, qui était un schéma quadrillé, étant donné qu'ils ont gagné la ville de Grenade, ça deviendra une ville un peu mythique et il y aura ce schéma de Santa Fe que l'on va retrouver un peu partout. Alors, pourquoi est-ce que la ville est encadrée? Alors ça, toutes les hypothèses sont là. Pourquoi pas, bien sûr, première réponse. Deuxième réponse, c'est militairement très important parce que les routes mènent se voit, enfin on peut voir de loin, les armées peuvent progresser. Vous savez que Paris, au moment de la Commune, après la Commune, justement, a été quadrillée par Haussmann, parce que la Commune, c'était des rues tortueuses où les gens pouvaient se réfugier, où on pouvait faire des barricades, et l'armée avait du mal à progresser. De même que de la place à Mayor, de la place centrale, vous pouvez voir loin ce qui arrive. Et sur la place à Mayor, qui est le cœur d'une ville, il y aura tous les symboles du pouvoir. Il y aura l'église, il y aura l'ayuntamiento, il y aura le quartier général, enfin, vous allez avoir, et au centre, le symbole de la justice, la picota, c'est le pilori. Chose qui est un peu disparue dans nos cultures, dans nos civilisations, mais qui était très important. Pour marquer le pouvoir, entre autres, il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit condamné. En fait, c'était pas difficile, évidemment. Et donc, il y a cette fameuse picota où on était attaché et où les gens passaient, vous crachaient dessus, hypocritement, en se disant, ouf, c'est pas moi qui suis là, quoi. Tant pis pour lui. Bon, donc, représentation tout à fait allégorique, presque, de la ville de Lima. Cusco, interprété par Théodore Debrie, dans la quatrième ou cinquième partie, je ne m'en rappelle plus, cinquième partie des voyages. Donc, vous voyez, une grande ville entouré de murailles. Alors pensez qu'il y a autre chose dans la mentalité aussi. Il y a Jérusalem aussi qui intervient. Vous avez Santa Fe, le camp romain, mais il y a aussi dans, Jérusalem dans les représentations. Et vous avez par exemple, vous voyez à gauche, une espèce de temple qui est pas pratiquement le temple de Salomon. Vous voyez à gauche avec une coupole qui jamais n'a été... Vous avez une coupole pareille. On venait de la créer. Il n'y avait pas de coupole avant la fin du XVIe siècle. La coupole est une invention italienne. C'est Brunelleschi qui a fait la grande coupole de Florence. Et c'est Brunelleschi qui, pour la première fois, a fait un exploit architectural, c'est-à-dire mettre une énorme coupole qui tient. Et vous savez que c'est lui qui, à l'origine, ou c'est lui qu'on attribue, ce qu'on a attribué ensuite à Christophe Colomb, l'œuf de Christophe Colomb. Il suffisait d'y penser. Vous savez qu'il a fait tenir sur une table un œuf, ce qui est faux. Et donc, c'est probablement Brunelleschi, et c'est même faux probablement aussi. Et c'est un vieux texte du Moyen-Âge. Mais ce coupole, par conséquent, est tout à fait anachronique. Regardez à Paris. Je connais mieux Paris que Caen. Et il y a 5 ou 6 coupoles. Bon. Il y a celle de l'Institut, sous laquelle il paraît qu'il fait bon être. Il y a les Invalides. Il y a le Panthéon. Il y a le Val-de-Grâce. Bon. Toutes ces coupoles sont du XVIIe siècle. Et tout est du XVIIe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors, à Cusco, les Incas avaient quand même des inventions architecturales très intéressantes, mais pas celle-ci. Autre représentation, Plautus Philipponus, 1621, c'est une gravure allemande. Et vous voyez là-bas en haut à droite toujours la même représentation de cette coupole qui semblerait être le centre de la ville de Cusco. Il faut faire de l'iconologie. Alors l'iconologie, c'est la suite d'une image dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est installée dans l'iconographie, eh bien les suivants, c'est-à-dire ceux qui vont faire une autre édition ou qui vont représenter la même chose, ben, ils vont se dire, bon, ben, ça existe déjà, voyons, où est-ce que c'est à Cusco, hop, ah, c'est là, ben, c'est comme ça à Cusco. Alors on va un petit peu changer, quoi. Et vous avez comme ça tout au long, je ne dis pas des siècles, mais quand même, pendant assez longtemps, ici c'est 1670, vous voyez. C'est Montanus, c'est un livre très important. Bon, ils sont tous importants, si vous m'écoutez. Mais enfin, c'est un livre hollandais qui s'appelle Neuve Onbekende Wereld. Vous parlez tous néerlandais, non ? Bon. Eh bien, ça veut dire le monde inconnu. Donc, ce monde inconnu qui est le Nouveau Monde, 1671, il y a des gravures remarquables et intéressantes comme... mentalité du XVIIe siècle, où on commençait à connaître. 1670, ça fait quand même pas mal de temps, hein, ça fait plus d'un siècle et demi que l'on connaît le monde américain. Eh bien, il y a des fioritures. Et voyez, en haut, il y a des tours. Mais ils n'ont pas pu essayer. Ils ont résisté là, mais ils ne vont pas résister ailleurs, ce sont des Hollandais. Ils vont mettre des moulins. Vous voyez toujours, le voilà, le temple de Jérusalem. Avec des vaches et un dromadaire. Nous sommes en 1670. Ils savent bien qu'il n'y a pas de dromadaire ou de chameau, je ne sais plus. Vous voyez ? Donc, cette vision de la richesse, c'est lié à l'Orient. Et le chameau, ce sera la représentation symbolique de l'Asie. C'était déjà dans les représentations allégoriques. Le cheval étant la représentation allégorique de l'Europe. Le lion, la représentation allégorique de l'Afrique. Et puis, qu'est-ce qui manque ? L'Amérique. Alors, l'Amérique. Le caïman. Ou alligator. Parfois, le tatou. Énorme. Mais en principe, c'est devenu, ça s'est affirmé, avec l'alligator. Vous allez dans le parc de Versailles, vous avez une statue de l'Amérique, magnifique, avec en bas un alligator. Ah, autre ville, Potosi. Alors, celle-là aussi, ville fondée par les Espagnols. Pourquoi ? Elle est fondée sur le gisement d'argent, bien sûr. Cette ville va devenir très importante. Il y aura 200 000 habitants à l'époque, à la fin, au XVIIe siècle. Et donc, là, par contre, on n'a pas le plan. Pourquoi ? Parce que là, vraiment, c'est l'obligation géographique. c'est trop en pente, quoi. Il n'y a pas moyen de faire encadrer un camp romain. Donc, ici, cette représentation est très approximative, mais elle aussi, elle va être reproduite dans des quantités d'ouvrages. Hein? Alors, ça peut être Zárate, Historia de la Conquista del Perú, ça peut être Cieza de León, je ne sais pas duquel c'est tiré, c'est un des deux. Hein? Et il y aura donc cette représentation copiée aussi. Voilà, vous voyez, encore une autre, avec ici la Villa de la Plata, que l'on voit plus en haut à droite. Et vous voyez, cette ville est une série de maisons et une rivière symbolisée de cette manière, où l'on lave le minerai d'argent. Et on dit dans les textes sur Potosí qu'il y a des moulins. Ce moulin à vent, bon, dont je ne ferai pas d'autres commentaires. Alors, autre ville, et des plus importantes, Tenochtitlan. Alors, Tenochtitlan, c'est un cas très particulier. On s'y est beaucoup intéressé. Hein. Tenochtitlan était décrite dans la deuxième lettre de Cortés comme étant une des villes les plus extraordinaires qu'il ait vues, qui était bien plus extraordinaire que ce qu'il connaissait lui, qu'est-ce qu'il connaissait Séville comme grande ville. Et il trouvait que c'était bien supérieur. Bon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va la détruire. Il va avoir affaire à une ville qu'il va dominer, puisqu'il en est le maître, disons, on ne va pas raconter toute l'histoire. Et quand il en est le maître, au lieu d'adapter la ville à une nouvelle... Car c'est une ville tout à fait comparable aux villes européennes. Il y a des constructions en dur. Hein, c'est pas du tout une... c'est une ville telle qu'on peut la concevoir en Europe, avec une place centrale énorme, où il y a les deux grands temples. Alors, les deux grands temples... J'essaie de me mettre à la place de Cortés. Les deux grands temples, café Charles Quint avec la mosquée de Cordoue. Une horreur, mais enfin, il a mis au milieu une cathédrale. Enfin, il n'a pas détruit toute la mosquée de Cordoue. Hein? Au milieu, il y a la cathédrale, c'est ahurissant. Hein? Bon. Eh bien là, non. Allez, du passé, faisons table rase. Je reprendrai une phrase qui est dans une chanson bien connue. Eh bien, hop, tout sera rasé. Mais rasé à un point qu'on ne saura plus qu'il y avait un grand temple, ni où il était, jusqu'en 1952, où, par des fouilles pour faire des travaux d'électricité, près de la cathédrale, on a trouvé les fondations du Templo Mayor. C'est quand même incroyable. Donc, ici, c'est un cas fantastique, la ville de Mexico, parce que, d'abord, on va la raser. On va construire des bâtiments à l'européenne avec les pierres, quand même. Bien sûr, tant qu'à faire, qui étaient là. Le Mexico ancien, c'est du tessantle, c'est-à-dire c'est de la pierre volcanique. C'est pas très beau, c'est noir. Enfin bon. Et cette ville, on va oublier ce qu'elle était. Et en plus, on va lui enlever tout ce qui faisait son intérêt. Son intérêt, c'était une ville avec des canaux. C'est une ville où, un peu une Venise. Il y avait deux grands lacs, un lac salé, vous le savez, on vous l'a dit, un lac d'eau douce. Bon. Et il y avait des grandes digues qui menaient à la terre ferme, qui donc permettaient d'avoir à la fois une navigation, une circulation par voie de terre, enfin une ville extraordinaire. Sauf que il y avait de temps en temps des tempêtes, figurez-vous, quand vous voyez Mexico maintenant. Il y avait des tempêtes sur le lac qui avaient détruit en partie la ville. Donc, l'obsession va être d'assécher les lacs. Deuxième bêtise. Première, on détruit la ville. Deuxième, on assèche les lacs. Ce qui fait que maintenant, Mexico a une surface grande, je ne sais pas moi, comme l'île de France, où il n'y a que du béton. Voilà. Et il n'y a pas d'eau. Alors, toutes les maisons, si vous allez là-bas, je vous le souhaite quand même, il y a partout des réservoirs d'eau. Tout partout. C'est une des caractéristiques de la ville. Hein. Pourquoi? Parce que quand on a de l'eau, gardons-la. Hein. Voilà. Donc, cette ville qui était idéale, qui est décrite d'ailleurs comme une ville magnifique, bien, l'esprit colonial et l'esprit des hommes, disons en général, ne prendra pas garde à l'avenir, sinon à une vision à courte vue, toujours à court terme. Alors, le plan, il est dit plan de Hernán Cortés. Il figure dans la deuxième lettre de Cortés, dans une édition latine de 1524, c'est-à-dire très, très proche de la conquête. Et cette édition, qui comporte cette carte, Cette carte a été établie par, sur ordre de Cortés, ce n'est pas lui qui l'a faite. Mais enfin, il avait avec lui quelqu'un qui était capable de le faire. Et c'est donc étonnant qu'il ait fait ce plan pour montrer l'importance de la découverte au roi, à Charles Quint, enfin au roi, à l'empereur. Donc, ici, ce plan va être copié infiniment. Même quand la ville, depuis longtemps, n'existera plus, Tenochtitlan. En Europe, qu'est-ce qui est important? C'est Tenochtitlan. Mexico. On ne sait pas très bien. Alors, ici, représentation d'un Ramusio, c'est la même chose. Vous avez les deux grands lacs. Autre représentation dans un atlas rarissime, l'atlas Volar, qui vient d'être réédité. Et donc, vous avez, vous voyez, quelque chose de symbolique aussi sur l'emplacement de Mexico. C'est Alonso de Santa Cruz, il a fait une cosmographie. Et il y a une représentation un peu fouillie, mais vous voyez, c'est le plan quadrillé, déjà, qui apparaît. Hein. Alors, on dit qu'à l'origine, c'était peut-être un plan quadrillé pour Tenochtitlan, mais fichtrement, on n'en sait pas grand-chose. Alors, représentation imaginaire, celle-ci, bon, vous connaissez Diego Rivera, qui fait une représentation aussi de Mexico. C'est toujours intéressant de voir ce qui reste dans les mentalités des gens comme étant la ville, alors qu'on va exalter, bien sûr, puisque les Mexicains vont exalter leur passé, ce qui n'est pas le cas des Péruviens, très curieux. Ils vont exalter leur passé et ils vont exalter tout ce qui était indien, tout ce qui était aztèque ou toltèque ou avant, bon, même olmèque. Bon. Et donc, tout sera exalté comme étant un passé à considérer. Si vous allez sur la grande avenue de Mexico, Reforma, vous avez trois statues. Vous avez celle de Christophe Colomb, curieusement, parce que... Bon. Et vous avez Cuauhtémoc et vous avez Cuitláhuac. Mais vous n'avez pas Moctezuma. Traître Moctezuma. Et surtout pas Cortés. Mais si vous allez à Lima, sur la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, vous avez une statue de Pizarro. C'est quand même un symbole. Elle a été enlevée, je crois. Bon. Enfin, n'empêche. On n'a pas mis à la place une statue de Tupac Amaru, vous voyez. C'est-à-dire, c'est... Bon, elle a été enlevée, mais c'est une statue qui ressemblait un peu à... La même se trouve à Trujillo. Voilà, la même. Bon, ceci étant très important, la toponymie est toujours très importante. Hein. Pensez à cela, ce que l'on veut célébrer révèle aussi les mentalités d'un pays. Vous voyez, il n'y a pas une rue Cortés. Il y a un hôtel Cortés à Mexico, c'est tout ce que j'ai pu voir. Il n'y en a pas une dans tout le Mexique. De même qu'en France, vous n'avez pas une rue Napoléon Ier. Ce que la République veut célébrer ou ne pas célébrer. À Bonaparte, oui. Vous connaissez la définition de Larousse, du Larousse, de l'époque. Bonaparte, général de la Révolution, mort en 1802. Voilà, ça c'est la façon, donc, de l'oubli volontaire ou ce que l'on veut célébrer ou ne pas célébrer. Voilà. Hein. Ça, c'est, mais c'est authentique, hein, cette définition, quand même. Voilà. Alors ici... Bon, c'est un muraliste de la Cueva, qui est moins connu que les grands muralistes que sont Orozco, Siqueiros et Rivera, mais c'est un muraliste qui est très intéressant, je trouve, et qui, lui, va faire une vision symbolique où il va mettre en dessous ce qu'était la place à Mayor centrale de Tenochtitlan, avec le temple double, le temple de Tlaloc et le temple Huitzilopochtli, et une reconstitution, bon... qui est sûrement aussi discutable, et vous voyez deux représentations de divinités qui sont probablement à gauche, là, Tezcatlipoca, bon, et l'autre, ça doit être Tlaloc, bon, qui soutiennent ce qui va devenir la nouvelle Mexico. Et entre les deux, vous avez cette déesse disloquée qui est une pierre que l'on a retrouvée et qui est exposée au Templo Mayor. Bon, et vous avez donc la place centrale et en plus le drapeau mexicain. Bon, donc, vous voyez, il y a une analyse très complexe de ce tableau, mais qui n'est pas... c'est un mural, hein, c'est important. Bon, je vais aller plus vite. Buenos Aires. Première représentation de Buenos Aires, faite par un Allemand à Nuremberg en 1599. Donc, dites-vous que tout est faux. C'est fait par un type qui a lu le texte de Ulrich Schmidl. Le texte d'Ulrich Schmidl, il y a un passage formidable, chapitre 2 ou 3, qui dit que la première fondation... Ils sont arrivés à Pedro de Mendoza, 1535, avec quelques chevaux, quelques hommes, et ils ont fait un premier fort, après avoir été assez bien accueillis par les Indiens du coin qui s'appelaient les Guarandi. Ils vont s'installer là, ils font un mur qui fait 1 mètre de large en terre, hein, en terre, il n'y a pas de pierre, en terre, et qui fait une demi-lance de hauteur. Bon, c'est-à-dire 2 mètres peut-être. Bon, donc rien. Et ils vont mettre la casa importante para el gobernador. Alors là, du coup, on va faire une maison normande, vous voyez, là. Bon, ou bavaroise. Et alors, pas du tout. Bien sûr, ce sont des huttes plus solides que l'autre, puis c'est tout. Et il y a une scène ici qui est décrite. C'est que la famine règne dans Buenos Aires. Pourquoi ? Parce qu'avec les Indiens, ça ne marche plus. Alors, il y a des quantités de raisons, bien sûr. Et ils sont enfermés là, et ils commencent à manger tout ce qu'ils trouvent. Sabandijas, etc. Bon. Ils mangent leurs chaussures. Et alors, ce qui est quand même terrible, c'est qu'il y avait des chevaux. Alors, les types commencent à regarder les chevaux. Or, interdiction absolue de toucher un cheval, puisque c'est l'arme offensive par excellence dans ce pays où les Indiens ne connaissent pas le cheval. Évidemment, une nuit, ils sont mis à trois. Ont allé tuer un cheval, et ils ont mangé tout ce qu'ils ont pu, et il est évident qu'ils se sont fait prendre. Et donc le lendemain, pour leur montrer, on les a pendus. Et la nuit suivante, des soldats sont allés manger les cuisses des pendus. Bon, donc, c'est très important, ça, parce que c'est justement c'est l'anthropophagie de subsistance qui est très intéressante, qui va se retrouver dans l'histoire. On va la trouver dans le Cabeza de Vaca, on va la retrouver dans d'autres endroits. Donc cette anthropophagie de subsistance est à la base de la première fondation de Buenos Aires, la ville sera abandonnée et elle sera refondée plus tard en 1580 ou 83, je ne sais plus. Donc ça, c'est la première image de Buenos Aires que, en principe, tous les Argentins connaissent. Ici, l'attaque, bien sûr, par les Indiens, qui mettent le feu à la ville, les bateaux sont en veux, c'est un désastre. Bon. Première ville, donc, échec de fondation. C'est pour vous dire que c'est tellement important dans la mentalité et dans l'histoire, il ne faut pas le négliger, qu'il y a eu un texte de Oscar Conti, qui est mort maintenant, qui était, si vous voulez, c'est le maître de Quino, celui qui a fait Mafalda, vous voyez, et qui représente, qui prend la scène que je vous ai montrée tout à l'heure, et qui lui, alors là vous pouvez passer un bon moment à voir les détails, c'est un peu comme Dubout, vous savez, où on regarde, on voit des tas de petits détails de... Alors, surtout, ce qui est bon, c'est l'Espagnol qui dit « que Buenos Aires son los de este suelo ». Chose qui n'a jamais été dite, bien sûr. Hein. Parce que Buenos Aires ne s'appelle pas Buenos Aires parce qu'il y avait des Buenos Aires. Parce que c'était Nuestra Señora María del Buen Aire, patronne des navigateurs. Bon, alors là, on va aller un peu plus vite. Lima, donc vous avez toujours le même schéma, quadrillage et fortification. Alors ça, c'est un plan fin 17e. Panama, vous voyez, vous avez toujours le même... Vous voyez, au centre, la place toujours. On a dégagé una cuadra pour faire la place centrale. Alors ça, c'est un vrai plan, c'est-à-dire qui a été dessiné, qui n'est pas imaginaire. Montevideo, qui est aussi un plan dessiné pratiquement authentique. Et donc ici, cette ville... qui est fondée en 1734-35, c'est-à-dire très tardive. Hein. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit pour Lima était bon pour Buenos Aires. Ce n'est pas un port. À l'origine, un port, c'est un endroit où les bateaux peuvent accoster, et non pas où ils doivent rester à 200 mètres et ensuite qu'on prenne une petite barque ou des chaloupes. Or, Buenos Aires, il n'y a pas de port. Et malgré tout, c'est la ville qui s'est développée le plus, comme Lima. Et le port, le vrai, du Rio de la Plata, c'est Montevideo. Parce qu'il y a une rade dans laquelle, effectivement, les navires peuvent arriver. Comme Marseille est un port naturel, vous voyez. Il y a des ports naturels et des ports artificiels, d'une certaine manière. Bon. Alors, dans Montevideo, plan de Montevideo, alors ce texte est du 18e, hein, cette image, c'est Pernetti, voyage aux îles Malouines. Ici, une aquarelle qui m'appartenait, mais que malgré tout, par bêtise, je m'en suis séparé. Bon, voilà, tant pis pour moi, c'est une aquarelle que je regrette énormément, qui représente le plan de Montevideo, aussi vu par un jésuite à l'époque au XVIIIe siècle. Et ce qui était intéressant, c'est, je m'en suis rendu compte après, c'est que, bon, la ciudad de San Felipe c'est Montevideo, et vous avez surtout, alors le Cerro de Montevideo, et vous avez surtout, chose d'important, Casa de los Negros. C'est-à-dire, c'est l'endroit où arrivaient les esclaves. Oui, Casa de los Negros. Il y avait, disons, l'Asiento de Negros envoyait beaucoup d'esclaves au Rio de la Plata, à Buenos Aires et à Montevideo. Et maintenant, il n'y a plus, ils sont allés au Brésil, ils sont au Brésil. Mais c'était dans la culture platense, Rio Platense, quelque chose d'important. Casa de los Negros. Et vous savez que cet Asiento de Negros a été donné à la France entre 1700 et 1715. Celui-ci, par contre, je l'ai conservé. C'est une aquarelle représentant les missions jésuites au Paraguay. Donc, autre fondation, non pas la ville coloniale, mais la ville religieuse, véritablement, c'est-à-dire la mission. Alors, les missions, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, les premières, c'est 1610, et les dernières, c'est 1720, par là. Et l'expulsion, 1767. Donc, et à partir, donc 150 ans, quand même, de vie dans ce que l'on appelait Paraguaria de Paraguay, très important, très vaste. Et ici, vous avez marqué en rouge les missions qui avaient été fondées. Alors, c'est toujours des San Miguel, il y a Trinidad, il y a Tres Reyes Magos, San Javier, toujours des saints et des villes, Loreto, et des villes qui vont devenir importantes dans la mesure où, par rapport aux autres, je pense que la plus importante des missions sera plus peuplée que Buenos Aires à l'époque. Vous voyez, Buenos Aires était un village. Quand on voit les descriptions, c'était vraiment le bout du monde. Tandis qu'ici, là, il y avait quand même une organisation très efficace, et nous allons voir. Voilà. Alors là, c'est exagéré. C'est une représentation idéale, un peu, de Peramas, qui est un jésuite, qui a fait cela. C'est la mission de la mission de Candelaria, où vous avez, alors, on dirait des maisons comme ici, quoi, hein, non. Mais l'intéressant, c'est qu'il y a souvent des préaux, car c'est des endroits, enfin, des soportales, des arcades, parce que c'est des pays où il pleut. Hein. Et alors, donc, la mission était, en général, pour pouvoir aller à l'église, eh bien, bon, mais c'était des maisons. Pas du tout comme ça. C'était des chozas qu'on laissait faire aux Indiens. Et souvent, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait qu'une porte. Alors, quand ils faisaient du feu à l'intérieur, tous les jésuites disent « Ah, on avait du mal à entrer dans la... suffoquer, mais on y allait quand même pour donner l'extrême onction. » Autre représentation missionnaire des Indiens Mocobi, c'est un texte, un codex. Autant je vous ai parlé de Huamampo Mayaya, là, pour le Pérou, autant celui-ci est important pour les jésuites. C'est Pauque, Florian Pauque, P-A-U-C-K-E. Pauque, c'est un codex qui se trouve en Autriche. Là aussi, pourquoi en Autriche? Si, encore là, c'est plus compréhensible, puisqu'il a été expulsé, ce Pauque, heureusement, on peut dire, parce que tous ces missionnaires expulsés, au moins, ont eu le temps d'écrire après. Ben oui, c'est vrai. Dans la mission, il n'aurait pas fait tout ça. Et vous voyez, le travail qu'il avait, la température qu'il faisait, etc., on ne devait pas se mettre à un bureau, là. Non, tandis qu'une fois qu'il a été à Vienne ou ailleurs, je ne sais plus, il était en Silésie, je ne sais où, il a eu le temps de... Oui, comme beaucoup sont allés à Rome aussi. Et vous avez énormément de textes de jésuites expulsés. Et donc, ce dessin... Alors, il a été fait sûrement après coup, mais enfin, il avait probablement... quand même, puisque c'est un dessinateur, sans aucun doute. Et il a fait ce plan de la mission, qui, vous voyez, n'est pas le même. C'est-à-dire que les Mocobi n'étaient pas très dociles. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait d'eux, donc ils ont construit leur maison où ils voulaient. Et bien, on les a obligés à faire des maisons, alors que c'est des gens qui n'avaient pas de maison. Il n'y avait pas ça. C'était des nomades qui n'avaient que de vagues huttes précaires qui se transformaient, qui bougeaient, etc. Là, on les a fixés. Donc le but, la mission, ce qu'il y a d'important... Le grand truc, ça a été de fixer des nomades. Vous voyez ? Et pourquoi ? Parce que le critère de la civilisation, civis, ville. Et donc, c'est vrai que quand on ne bouge plus, on a du temps. Et donc, on peut penser, donc on peut créer, on peut élaborer. Alors, il y aura même des imprimeries qui seront fondées Ça ne durera pas longtemps. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais ça a duré de 1720 à 1730 à peu près. Il y a eu des livres imprimés dans l'émission. Santa Maria la Mayor, et puis je ne sais plus laquelle, il y avait des livres imprimés faits par les Indiens qui sculptaient les caractères en bois, voyez, qui faisaient des livres. Alors ça, personne ne connaît. Ce sont des dessins extraordinaires, je trouve, d'un jésuite, un missionnaire de la Californie. Alors c'est une des missions de Californie. C'est extraordinaire de détails, de qualité, et où on voit énormément de choses. Bon, c'est concentré, les dessins concentrent, bien sûr, c'est pas une photographie. Donc il y aura la façon de construire les maisons. Alors ça, c'est fait sur place. Voilà, ça c'est formidable. Ça se trouve maintenant en Tchécoslovaquie, Winston Tchèque, mais je ne me rappelle plus de son nom. Et donc, il y a deux ou trois de ces dessins tout à fait surprenants de missions en Californie qui sont, ou Santa Barbara, ou, vous voyez, qui a beaucoup changé. La construction jésuite d'ailleurs, hein, tout à fait. À la place du gibet, ils ont mis des cloches, ce qui est bien. Alors, autre plan, San Luis Potosí, je crois. C'est une ville du Mexique qui est une ville qu'on a appelée comme ça parce qu'on y a trouvé de l'argent. Le symbole de l'argent, c'était Potosí, donc San Luis Potosí. Hein. C'est une ville sonore de Mexico. C'est une ville intéressante, d'ailleurs. Hein. Et donc, ici, vous avez ces plans, bon, comme ceux que l'on trouve en Europe, mais toujours le même schéma. Autre ville, ici, je crois que c'est Riobamba, au Pérou, vous voyez. Donc, ville aussi fondée totalement par les Espagnols. Oh, c'est en Équateur, Riobamba. Quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, sur lequel je suis plongé depuis 6 mois, c'est les Français en Floride. Bon, vous ne savez pas que les Français sont allés en Floride, tant pis pour vous. 1562-1565. Trois expéditions, ils ont voulu fonder une colonie en Floride, et ils ont été chassés, massacrés, par les Espagnols. Donc, ça tient à l'histoire de l'Espagne, et un personnage formidable qui s'appelle Menéndez de Avilés. El adelantado Menéndez de Avilés. Qui a eu la chance que la flotte française soit dispersée par un ouragan, qui a donc pu se rendre maître de ce qu'avaient fondé les Français et massacrer 600 personnes, quand même, parce qu'ils étaient calvinistes. Je leur demandais qui était catholique. N'ayant pas eu de bonne réponse, j'ose passer à Cuchillo. C'est un truc. Et je vous conseille de lire les lettres de Menéndez de Avilés à Charles Quint. Voilà un bon sujet de master. Allez, allez. Alors ici, c'est la fondation, c'est le deuxième voyage des Français quand ils retrouvent la colonne que le premier voyage, Jean Ribaud, avait fait planter en l'actuelle Caroline du Sud, hein, ce qu'on appelait Floride. C'est maintenant... il y a une ville espagnole qui s'appelle San Agustín, qui est la première ville des États-Unis d'ailleurs. Et donc ici, cette colonne qui était en pierre, qui avait été préparée en France, et ils étaient partis du Havre. Ils avaient donc emporté cela pour marquer leur position, et avec les armes de France, bon, c'était peut-être pas... Et vous voyez le roi Timucua, indien, ces gens ont disparu complètement, plus grand que le français, donc on voit que le graveur, là, et là, c'était un dessinateur de talent, le moine de Morgues, qui va représenter cette scène archi-commentée. Bon, c'est les Indiens qui vénèrent cette colonne que les Français avaient plantée lors du premier voyage, et c'est une espèce de propagande coloniale, en fait, si on veut. Parce que les Français calvinistes, c'est plutôt une guerre calviniste-catholique qu'une guerre France-Espagne. Hein, vous êtes d'accord ? Et nous retrouvons la prise de poil. Alors on va finir avec ces images qui, elles, sont du 19e siècle et qui représentent une autre mentalité. C'est-à-dire qui vont représenter et exalter quand même la fondation des villes, mais avec une grande distance. Et c'est l'espèce de période de la peinture d'histoire. Et la peinture d'histoire est très importante. Et ici, alors je crois que c'est Santiago. C'est Santiago de Chile, fondation de Santiago de Chile. Bon, évidemment, comme si l'Indien lui montre l'endroit, c'est là qu'il faut. Ben, vous savez qu'on nous a raconté l'histoire de Rome aussi, hein, qu'ils ont pris une charrue au Romulus et Rémus et qu'ils ont fait un cercle. Alors la croix, bon, tous les symboles, et en général, toujours les Indiens en admiration, là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une justification coloniale. Et cette justification, elle est donnée par, eh bien, l'accord et l'admiration des victimes. En fait, soyons clairs, hein, ou des futures victimes. Voilà. Segunda Fundación de Buenos Aires. On va finir là-dessus. Donc, c'est le premier raté. Hein, et la seconde, c'est Juan de Garay. Alors, Juan de Garay, qui a son avenue, bien sûr, à Buenos Aires, et Pedro de Mendoza aussi. Ils ont reçu une statue. Bon. Et donc, ici, scène théâtrale, bien sûr. Et vous voyez cette colonne, comme vous l'avez vu, cette colonne en Floride. Voyez, c'est-à-dire que il faut marquer le centre, l'endroit où. Paris, c'est Notre-Dame. À Buenos Aires, eh ben, c'est la colonne, l'obélisque, qui sera à la place, plus ou moins, de, semble-t-il, de cette colonne qui avait été placée par Juan de Garay, pour montrer, c'est ici que nous allons fonder Santa Maria del Buen Aire. Voilà. Et donc, même chose, l'épée, la croix, les armes de l'Espagne, tout à valeur symbolique, et dans un endroit où, encore une fois, c'est pas brillant, mais ça ne fait rien, puisque c'est là qu'il faut revenir, puisque là, il n'est pas question qu'il y ait eu un échec. Voilà, hein. Donc, Segunda Fundación. Alors, même chose, cette image qui se trouve, je ne sais où, je ne sais pas où elle est, dans un... à l'Ayuntamiento, je ne sais où. C'est une peinture, je crois que c'est un Espagnol qui a peint ça. Voilà. Oui, c'est un Espagnol, voilà. Voilà, vous avez tous les détails. Ça ne vaut plus grand-chose, ça, hein, sauf pour un collectionneur, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est le même tableau qui va donc être une commémoration, donc une adhésion coloniale. Vous voyez, au passé colonial. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que, de même qu'en France, quoi, qu'est-ce qu'il y aurait dans le passé lointain, Saint-Louis rendant la justice à Vincennes sous un chêne. Ça, c'est très bien. Jeanne d'Arc brûlée à Rouen avec l'Anglais qui dit « Ah, nous avons brûlé une sainte ». Il y a comme ça des imageries qui resteront et qui, malgré les régimes politiques, resteront valables. Clovis et le vase de Soissons. Voilà. Vous voyez, il y en a quantité d'autres comme ça, qui sont peut-être pas vrais, d'ailleurs, mais ça n'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est que ça reste mémoriel. Et là, on va le laisser, puisque les gens le voient tous les jours. Enfin, peut-être pas tout le monde. Enfin, c'était billet de 50 pesettes. C'était quand même pas elle. Hein. Et vous voilà la même scène vue par notre Oski, qui, justement, va, pour une fois, lui, avoir une autre attitude, c'est celle de la dérision. Et celle de la dérision n'apparaît que dans la seconde moitié du XXe siècle. Jusque-là, jamais il n'y a eu de dérision. Ça aussi, penser que c'est quelque chose, c'est un phénomène culturel fondamental, c'est le cas de le dire, c'est celui de... Alors bon, évidemment, l'Indien en bas à droite, vous voyez, están locos, bon, ils sont fous, c'est romain. Enfin, vous voyez, c'est exactement ce que l'on va retrouver. C'est le principe, mais Astérix, c'est postérieur à ça, hein, n'oubliez pas. Et je suis persuadé qu'il connaissait Oski. Hein. Bon, voilà, donc, l'escribano, vous avez à peu près tout, et la colonne que l'on va planter. Voilà, c'est là. Ben, voilà. Et donc, c'est les Indiens qui assistent à cette scène. Donc, en gros, il y en a bien d'autres images hein, sur les fondations de villes. Donc, c'est quelque chose qui est représenté parce que ça affirme un pouvoir. Et l'affirmation du pouvoir, elle est essentiellement plus que géographique, nous l'avons vu, politique. C'est-à-dire que même dans des endroits, finalement, de peu d'intérêt, Lima, je reviens à Lima, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Lima, ça donne sur l'océan Pacifique. Les relations avec le Chili ont été toujours très mauvaises. Donc, le voyageur qui vient du détroit de Magellan, il faut passer par le détroit de Magellan, qui remonte Chiloé, Valparaíso, Santiago, Arica, Lima, qui est-il? Un pirate, c'est tout. Un corsaire. C'est le voyage de Hanson, par exemple. Commodore Hanson. C'était avant le voyage de Drake. C'est-à-dire, qui est-ce qui passe par? Eh ben non, c'est là qu'on va le faire. Vous voyez, autant Carthagène des Indes, c'est logique, par rapport à la situation sur le golfe du Mexique et en même temps donnant accès aux Andes. C'est cette ville qui aurait dû se développer. Une logique. Donc, pensez qu'il n'y a pas de logique. Voilà. Il y en a une minimum, quand même. C'est-à-dire qu'une ville, en général, est sur un fleuve ou à l'embouchure d'un fleuve. Hein? Regardez Paris, regardez Bordeaux. Mais Tolède, c'est un endroit du fleuve non navigable. Ça a été la capitale de l'Espagne. Lisbonne, voilà. Lisbonne, c'est la ville idéale, si on peut dire, comme position, comme situation. Encore que ça donne sur l'Atlantique. Vous voyez, il y a Barcelone. Voilà. Ah oui, c'est une ville importante pour des raisons justifiables. Naples. Vous voyez. Donc, si vous examinez les villes, il y en a qui sont dans la logique et d'autres qui ne sont pas dans la logique. Exposé. Merci.